Marie de Henzel, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci de me recevoir. Merci de me consacrer de votre temps extrêmement chargé. Et je voudrais commencer, Marie de Henzel, par une citation d'une chanteuse qui, sans doute, je pense, va vous interpeller. Shakira. Shakira qui souligne, on lui demandait de se présenter. Et voilà quelle fut sa réponse. Je remercie Dieu d'être un produit de mes parents. Ils m'ont transmis leur intelligence et leur énergie pour la vie, avec leur soif de connaissance et d'amour. Je suis reconnaissante de savoir d'où je viens. Voilà qui je suis. Et vous, Marie de Henzel, qui êtes-vous?
Ouh là là.
Comment pourriez-vous vous définir?
Je suis reconnaissante, moi aussi, à mes parents d'être en vie. J'ouvre une petite parenthèse parce que j'ai trois enfants et le dernier de mes fils m'a écrit il y a 2 ans une lettre dans laquelle il me remerciait de l'avoir mis au monde aussi. Je me dis, finalement, cette gratitude, elle passe de génération en génération. Je suis l'aînée de 7 enfants et la cinquième, parce que mon père a eu 4 enfants avant moi avec une autre femme. Je suis la cinquième d'une fratrie de 11, donc je suis d'une famille nombreuse, voilà, ce qui certainement au fond est peut-être que si mon âme a choisi aussi de s'incarner dans une famille nombreuse, c'est peut-être parce que c'est dans ces familles-là qu'on apprend aussi à s'occuper des autres. Parce que l'aîné, on m'a confié mes frères et sœurs, et j'ai beaucoup organisé la fratrie dans mon enfance. Voilà, donc je viens d'une famille nombreuse. Et je viens d'une famille aussi d'artistes, parce que mon grand-père était peintre, d'ailleurs les tableaux qui sont ici sont des tableaux de mon grand-père, et d'une famille assez peu conformiste, voilà.
D'accord. Marie de Henzel, très rapidement, pour les milliers d'étudiants qui nous regardent, pouvez-vous nous retracer vraiment très rapidement les grandes lignes de votre carrière professionnelle?
Alors, j'étais à 20 ans, à 16 ans, j'ai eu mon bac à 16 ans, j'ai fait dans la foulée une école d'interprète et de traductrice, et puis ensuite, puis aussi une maîtrise d'anglais, et j'ai d'abord travaillé comme traductrice et comme professeur d'anglais, et puis à la naissance de mon deuxième enfant, j'ai beaucoup, pendant cette grossesse où j'ai été obligée de rester pas mal au lit, j'ai beaucoup lu des Françoise Dolto d'une part, Jung d'autre part, et j'ai eu envie de devenir psychanalyste. Donc j'ai commencé une psychanalyse à la naissance de mon deuxième enfant, et puis ensuite j'ai fait des études de psychologue clinicienne à l'université, tout ça avec des enfants, un boulot de prof d'anglais. Mais j'avais vraiment envie de devenir thérapeute. Et une fois que j'ai été diplômée, j'ai travaillé d'abord auprès des femmes qui, c'était après la loi Veil, des femmes qui faisaient des demandes d'interruption de grossesse. C'était dans une perspective, non pas de leur faire changer d'avis, d'écouter ce désir d'enfant inconscient qui se heurtait à un non-vouloir conscient. Ça m'a beaucoup suivi dans ma vie, cette différence entre ce qu'on veut avec son ego, disons, et puis ce qui se veut à l'intérieur de nous, hein, dans l'inconscient. J'ai ensuite changé de voie, puisque j'ai travaillé en psychiatrie lourde. Et puis, j'ai François Mitterrand, que j'ai rencontré en 84, et j'ai écrit un livre d'ailleurs sur ma rencontre avec lui, m'a proposé de devenir la première psychologue en soins palliatifs, puisque c'est la première unité créée en France. Et donc, j'ai évidemment accepté. D'abord, je réfléchissais beaucoup à la question de la mort. Et puis, cette expérience pionnière m'a vraiment tentée. Essayer de montrer ce qu'on peut faire pour quand les personnes sont condamnées par la médecine, mais qu'elles restent vivantes encore, et pour qu'elles restent vivantes jusqu'au bout, comment faire, les soulager, bien sûr, mais aussi être à l'écoute de leur désir d'accomplissement. Donc, ensuite, j'ai écrit un livre sur cette expérience qui a eu un succès mondial, puisqu'il a été traduit en 22 langues. Et c'est ce livre que j'ai donc quitté mon expérience clinique au chevet des mourants pour transmettre mon expérience aux soignants. Et bien sûr, pour continuer à écrire, j'ai été chargée de mission au ministère de la Santé sur cette question de la fin de vie, avec deux rapports que j'ai remis, dont l'un a été à l'origine de la loi Leonetti sur la loi droit des malades et fin de vie. Et puis, lorsque j'ai approché les 60 ans, j'ai été invitée à faire une conférence sur comment accepter de vieillir. Et je me souviens, c'était au temple de l'Étoile à Paris. Il y avait 900 personnes, 900 seniors qui étaient devant moi. Moi, j'avais à peine 60 ans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet là. J'ai eu envie de creuser, non pas le sujet qui est très à la mode en ce moment du grand âge, mais l'expérience de vieillir. Et donc j'ai changé complètement j'ai commencé à écrire sur l'expérience de vieillir, toute une série de livres. Et ces livres, évidemment, ont amené des demandes d'intervention, d'une part auprès de la mutuelle Audience, qui est la mutuelle des journalistes, du spectacle, de l'audiovisuel, de la presse, où je fais depuis 13 ans, 13-14 ans maintenant, des séminaires sur l'art de bien vieillir. Et puis, j'interviens aussi dans des résidences-services pour personnes autonomes qui ont entre 80 et 100 ans, sur l'aventure de vieillir. Donc déjà ce mot aventure, on voit que l'image que j'ai du vieillissement n'est pas du tout cette image catastrophique qu'il y a dans notre société, mais que c'est une période de la vie dans laquelle on va découvrir des choses nouvelles.
Marie Denzel, on va en reparler. Moi, je suis très sensible à vos mots, qui plus est, malheureusement, cette période d'actualité, des EHPAD. Il faut le dire, c'est assez douloureux et catastrophique. Tout à l'heure, lorsque vous vous êtes présenté, j'ai retenu un mot, l'aide que vous apportez aux autres de par votre grande famille, etc. Vous avez aidé vos frères et sœurs. On voit en vous, Marie de Henzel, cet amour incommensurable pour l'humain que vous avez, que vous accompagnez, je dirais, depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. Quelle est, selon vous, Marie Denzel, la définition que vous pouvez donner de l'humain? Qu'est-ce qu'un humain?
Oula, définition de l'humain.
Ou de la personne?
C'est
Oui, c'est
difficile.
pas évident comme question.
Bon,
Ou de la personne? Qu'est-ce qu'une personne humaine pour vous?
d'abord, c'est une personne unique.
Ah
Il y
oui.
a, il y a de, dans l'unicité de chaque personne quelque chose qui me fascine. Nous ne
C'est-à-dire?
sommes pas des clones. Nous ne sommes pas, je veux dire,
C'est
chaque
vrai.
personne est unique. Alors, peut-être que l'humain, je dirais, l'humain, bien sûr, c'est un ensemble. Nous sommes corps, âme, esprit. Hein, et c'est s'intéresser à cette globalité, bien sûr, avec son unicité. Il n'y a pas une personne qui est comme une autre. Et ça, c'est extraordinaire. Ce qui fait que c'est vrai, dans cet intérêt que j'ai pour l'humain, pour chaque personne, je me dis, chaque personne a sa réponse et sa manière de tracer son chemin dans la vie et dans toutes les épreuves de la vie. Parce que ce qui caractérise l'humain, c'est que l'humain est confronté à des épreuves. Je connais personne qui n'ait pas d'épreuves. Alors l'humain, il naît, il meurt. Entre-temps, il a des épreuves. Il fait son chemin. Un chemin qui, d'après ce que j'ai observé, quand même, est un chemin qui semble avoir du sens. Hein. Comme si on avait. J'aime bien ces enfants qui disent, moi, je suis à l'école de la vie. Au fond, c'est comme une école, effectivement. On a des choses à apprendre. Et c'est vrai que le vieillard ou le mourant, ou même. Parce qu'il y a des enfants qui meurent aussi, mais dans ce peu de temps qu'ils ont dans la vie, ils ont appris quelque chose et ils ont appris aux autres. Parce que c'est ça qui est intéressant, nous ne vivons pas seulement pour nous. Nous modifions les autres.
Ce que j'aime beaucoup,
Oui.
Marie de Henzel, dans ce que vous dites, vous me faites penser à Rousseau. Et dans son ouvrage, Rêverie d'un promeneur solitaire, il donne le sens de la vie. Il a cette expression, il dit, la jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse le temps de la pratiquer.
Oui, c'est
Et
ça.
je trouve que c'est ce que vous dites à travers
Oui,
vos mots, finalement, que
oui,
ce sens de
oui.
la vie.
Oui, si on a la chance de vieillir, parce que moi je pense que c'est une chance. Je pense toujours à mon amie Christiane Sagère, qui est morte à 64 ans alors qu'elle avait écrit Les âges de la vie et tout un chapitre sur la vieillesse, et qui m'a dit avant de mourir, un mois avant de mourir, oh, comme j'aurais aimé vieillir pour bercer le monde.
C'est très beau.
Alors, elle aurait aimé, voilà, et là je me suis dit, moi j'ai de la chance parce qu'elle est morte à 64 ans, moi j'ai 10 ans de plus, et je me dis, j'ai de la chance d'être encore en vie. Et elle avait, dans cette phrase, elle avait dit qu'au fond, ce qui donne du sens à la vieillesse, c'est de pouvoir aussi bercer le monde. C'est-à-dire que c'est comme si, effectivement, dans cet âge de la vie, on pouvait vivre les contre-valeurs de la société. Notre société est très dure, elle est violente. Et je trouve que quand on avance en âge et qu'on se dit, bon, on n'a peut-être pas encore beaucoup de temps à vivre, hein, mais c'est le meilleur de soi-même qui émerge. Et je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance chez des personnes âgées que je rencontre, pas toutes, bien sûr, parce que. Bien sûr, il y a un mauvais vieillissement, il y a des gens malheureux, tourmentés, très méchants, ça existe, parce qu'ils sont malheureux. Mais quand on est en paix avec l'idée de vieillir, en général, c'est une grande bienveillance qui se révèle, hein. Et ça fait partie de l'accomplissement d'une vie. Et puis la transmission, parce que qu'est-ce qu'on peut transmettre aux autres? Pas tellement des leçons de vie, mais leur montrer que justement une vie, je dirais, il y a un sens à chaque âge, mais que dans la vieillesse, il y a un sens qui est justement de pouvoir, au fond, voyager à l'intérieur de soi, trouver en soi toutes je dirais, ces trésors, hein, que l'on a, et de pouvoir les rayonner. Moi, j'aime beaucoup au Japon. Vous savez, les centenaires de l'île d'Okinawa, leurs enfants disent, ce sont des trésors et des porte-bonheur.
C'est
Voilà.
beau.
Et nous ne le disons pas, mais moi j'aimerais qu'on finisse par dire ça.
C'est très beau la référence que vous faites à nos amis les Japonais. Marie de Henzel, vous avez utilisé depuis le début trois fois le mot d'accomplissement. C'est un magnifique mot finalement, et je pense à cette grande philosophe Simone Veil qui a ce concept d'accomplissement. Mais que veut dire, selon vous, une vie accomplie? Est-ce que finalement, on ne tend pas continuellement vers un accomplissement beaucoup plus sage, peut-être?
Alors, une vie accomplie. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que est-ce qu'un enfant qui meurt à 4 ans ou à 5 ans a-t-il une vie accomplie? On pourrait dire non. Et en fait, si, parce que cet enfant a modifié ses parents. Il a, il a, les, ce qu'il a vécu dans ce peu de temps, il a modifié les autres. Donc, on a une vie accomplie, c'est une vie dans laquelle on a œuvré. Et on œuvre en modifiant les autres. Ça, c'est une première chose. Et puis, moi j'aime beaucoup cette expression, nous avons un mandat céleste. Nous sommes sur terre pour quelque chose, chacun, unique, hein, a quelque chose à faire. Et accomplir son mandat céleste, c'est aller le plus loin possible dans cet accomplissement. Et bien sûr, il y a toute une période de la vie dans laquelle on ne sait pas trop ce qu'est son mandat céleste. Ça se découvre au fil du temps aussi. Hein. Bien sûr, hein, c'est pas. Donc, mais quand on commence à sentir quel est son axe, ce pourquoi on est fait, là encore, j'emploie un mot que que les Japonais utilisent, l'ikigai, c'est-à-dire ce qui lui donne du sens à la vie, ce qui fait qu'on se lève le matin, qui donne de l'enthousiasme, la joie de vivre. On a quelque chose de particulier, chacun d'entre nous, à faire. Et accomplir sa vie, c'est juste d'abord d'essayer de trouver cela, et une fois qu'on l'a trouvé, ben de mettre son énergie
C'est ça.
là-dedans. Et puis un jour, un jour on s'en va, peut-être avec de l'inachevé, et sûrement
C'est
aussi de
vrai, oui.
l'inaccompli. En fait, accomplir sa vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de l'inaccompli, mais il y a sans doute un moment dans lequel, au fond, c'est bien comme ça. Voilà, les choses sont bien comme elles sont.
Exactement. Marie Denzel, est-ce que finalement, apprendre à vieillir, ne pourrions-nous pas dire aussi que c'est apprendre à mourir? Montaigne qui dit philosophie, c'est apprendre à mourir. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, vous et moi, c'est que nous avons qu'une seule certitude, c'est que nous savons que nous allons mourir.
Oui.
La seule certitude de l'humanité, finalement. Cette certitude de la mort, qui reste quand même un grand mystère, parce que personne n'est venu nous dire ce qu'il se passe. Autrement dit, à votre avis, selon vous, faut-il apprendre à mourir?
Alors, on l'apprend en vivant, en fait, hein.
Oui,
C'est ce que disait Montaigne
c'est
aussi.
ça.
C'est ce que, oui, c'est la vie nous apprend à mourir, parce qu'en fait, la vie est faite d'une succession de petites morts aussi.
Oui.
Bon, de petits deuils. On apprend à perdre, on apprend à lâcher prise, on apprend qu'on n'est pas tout puissant, qu'on ne contrôle pas tout. Donc, en fait, la vie elle-même est une préparation. Hein. C'est Et puis, mais je pense que le fait de savoir que nous sommes mortels, alors ça, c'est un vrai problème dans notre monde occidental, car nous oublions que nous sommes mortels. Il y a un déni de la mort.
C'est ça.
Nous faisons comme si nous ne l'étions pas, avec aussi cette espèce de fantasme du transhumanisme ou de.
Tout à fait.
Nous sommes donc nous oublions que nous sommes mortels et du coup nous n'honorons pas la vie comme on devrait l'honorer, parce que une des fonctions de la mort dans notre vie, de la pensée de la mort, c'est de nous dire ben, je ne serai pas toujours là. Donc qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel? Ça nous oblige en fait à nous rapprocher de nous-mêmes et de notre essentiel. C'est vous savez, pendant le confinement, moi j'ai fait des tables rondes post-confinement auprès de ces personnes de 80 à 100 ans. Elles m'ont toutes dit qu'elles avaient, comme tout le monde, eu peur aussi de mourir. Et la mort est devenue, on entendait le chiffre des morts à la télévision tous les jours, et donc la pensée de la mort était là. Et elles m'ont dit, mais ça nous a fait réfléchir à ce qui était important pour nous, pour le temps qui nous reste à vivre. Et on voit bien, hein, moi je trouve que je pense que c'est pas du tout incompatible de vivre pleinement sa vie, mais vraiment pleinement, d'être vivant et en même temps de ne pas oublier qu'on est mortel. Je
Oui.
pense qu'on peut tenir les deux pensées en même temps.
Il y a un équilibre. Il y
Oui,
aurait un équilibre, oui.
oui, parce qu'en plus, cette pensée que l'on est mortel, elle fait savourer encore plus la vie.
C'est ça. Mais Marie-Denzel, j'ai oublié de vous poser je dirais la question peut-être la plus importante, vous qui êtes la grande spécialiste française du vieillissement et de la fin de vie. Quelle définition donnez-vous, pardon, à vieillir? Qu'est-ce que vieillir?
Vieillir, on vieillit dès la naissance, hein,
Oui,
puisque c'est
oui.
vieillir, c'est avancer dans le temps, hein. Donc oui, on vieillit dès le premier jour de notre naissance, hein, après notre naissance. Mais dans notre société, finalement, c'est vrai que le vieillissement, c'est réservé à ce que Jung appelait la deuxième partie de la vie. Jung parlait du processus d'individuation. Il disait que dans la première partie de la vie, eh bien, on met toute son énergie dans son ego, dans ses projets, ses constructions. Et puis, il y a un moment donné où c'est comme la course du soleil, le soleil décline, commence à décliner. Pour Jung, alors évidemment, personne ne sait quand est la moitié de sa vie, puisque
C'est
nous
sûr.
ignorons le terme. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à partir de... C'est pour ça qu'on situe ça autour de 60 ans. L'entrée dans le vieillissement.
D'accord, oui.
C'est pour ça que pendant le confinement, on a parlé des plus de 60.
C'est ça.
Bien sûr. Parce que là, on est à peu près sûr d'être dans la deuxième partie de la vie. Donc, voilà, c'est... Alors, vieillir, c'est... Donc, ça a une connotation particulière qui est liée à une forme de déclin. C'est vrai que les jours déclinent, hein, si on peut dire. Et en même temps, il y a un paradoxe que Victor Hugo traduit très bien quand il dit « Mon corps décline, ma pensée croît, dans ma vieillesse il y a une éclosion. » Il a
C'est
tout dit.
magnifique,
Le
oui.
corps décline, oui, c'est inéluctable. Mais la pensée n'est pas destinée à s'user, à décliner, sauf si on est atteint d'une maladie cognitive, mais ce n'est pas du tout une fatalité. Moi, je connais des gens de 95, 98 ans qui ont toute leur tête et qui continuent à apprendre. C'est-à-dire leur pensée continue à
Oui, à
croître
croître.
jusqu'au bout. Et puis l'éclosion, ça c'est un terme superbe, ça veut dire que dans la vieillesse, on s'ouvre. Et c'est ce que j'ai observé. Il y a une ouverture du cœur, une ouverture d'esprit, une curiosité qui caractérise la vieillesse, hein. Et une ouverture au nouveau. C'est-à-dire que des personnes que je trouve heureuses et rayonnantes dans leur vieillesse sont des personnes qui me disent tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau,
C'est
ou
ça.
je découvre quelque chose. Ce n'est pas du tout, bah, tout est derrière moi, maintenant il n'y a plus qu'à attendre passivement et péniblement la mort, pas du tout. Hein, c'est un. La vie, d'ailleurs, la vie est caractérisée par son côté, je dirais, surprenant aussi. La vie apporte toujours des choses nouvelles. Elle est créée, il y a plein de créativité dans la vie.
Mais alors, Marie-Dundel, que répondez-vous à toutes ces jeunes filles, et je crois qu'il y a même des jeunes garçons qui le font, qui ont recours de plus en plus à la chirurgie esthétique, qui ont
Oui.
recours à toutes cette cosmétique
Oui.
de l'anti-âge, quelle
Oui.
est, que leur
Oui.
dites-vous?
Ben d'abord, c'est un peu pathétique
Oui.
parce que tout le monde. Enfin, il y a eu toute une mode du lifting, c'est surtout aux États-Unis. Et on voit que c'est assez catastrophique, d'ailleurs, avec le temps, ça vieillit très mal, les liftings. Alors, moi, je pense qu'il faut comprendre ce paradoxe. Le corps vieillit, oui. Le corps va changer, le visage va changer, va se rider. Mais moi, j'aime beaucoup cette marque. Je donne souvent l'exemple de cette marque de cosmétiques, justement Dove, qui avait choisi de prendre une mannequin de 96 ans, ridée comme une pomerainette, et de prendre une photo d'elle. Et elle était, on voyait que c'était une très vieille femme, mais elle avait un regard profond. Très, je dirais, plein de vie et puis un très joli sourire. Et à côté, c'était marqué ridée ou radieuse.
C'est beau,
C'est le défi.
c'est le défi.
Il faut accepter, je dirais aux jeunes, mais un jour, bien sûr, vous allez vous rider comme tout le monde. Eh bien, acceptez vos rides et puis dites-vous que la vraie beauté, elle est intérieure parce que le regard et le sourire ne vieillissent jamais. Les yeux vieillissent. La bouche vieillit, mais jamais le regard et le sourire. On peut avoir un
C'est vrai,
regard,
ça, oui.
et le regard même s'approfondit en vieillissant. Le sourire, il y a des sourires de centenaires qui sont d'une, je dirais, il y a tellement de bonté et qui s'expriment dans le sourire et de joie aussi. Donc, je leur dirais, écoutez, la vraie beauté, elle est intérieure. Travaillez à votre intériorité. Ayez une intériorité riche. Soyez bien à l'intérieur de vous-même. Voilà, trouvez votre fil rouge, votre mandat céleste, ce pourquoi vous êtes fait, ce qui donne du sens à votre vie. Et puis, vous allez rayonner.
C'est ça.
Parce que le rayonnement qui vient de l'intérieur, hein, n'a rien à voir avec le corps, avec l'état de la peau. Donc c'est le discours que je leur tiendrai.
Super Marie de Henzel, en parlant d'intériorité, vous venez d'écrire donc, en 2021 le « Vivre avec l'invisible » aux éditions Robert Laffont. Lorsque je vous écoute, vous parlez d'intériorité, finalement c'est cet invisible que l'on ne voit pas par définition. Mais ma question est la suivante, Marie de Henzel. Prendre conscience de notre invisible n'est-elle finalement pas la force de la reconnaissance, je dirais, de la faiblesse de notre visible? Autrement dit, en prenant conscience de notre invisible, en les voyant, en voyant l'intuition, les rêves, etc., oui. Est-ce que ça ne nous ramène pas finalement à la faiblesse de notre visible qui ne fait
que
passer?
Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que le visible est transitoire, il est limité aussi, il est voué à la destruction, hein. Et l'invisible, c'est au contraire, peut-être ce qui peut rester. On peut dire, d'ailleurs, au fond, nous parlons aussi de nos invisibles en parlant de nos morts.
Oui.
Hein, ils sont partis de l'autre côté, et pourtant, ils peuvent être très présents dans notre cœur, dans notre esprit. Donc, on voit bien que l'invisible peut être aussi à l'intérieur du visible. Hein. Et donc, oui, dans ce livre, j'ai effectivement... ce livre n'est pas tellement sur l'invisible, d'ailleurs sur le lien que les gens ont avec l'invisible. Parce que l'invisible, si vous me demandiez une définition, je vous dirais que je n'en ai pas. Mm-hmm. Parce qu'il y a toutes sortes, à chacun son invisible, d'une certaine façon.
Hein. C'est ça.
Quand j'ai interviewé toutes les personnes qui ont accepté de me parler, je voyais que pour chacune, c'était quelque chose de particulier. Pour les uns, ça pouvait être les rêves, l'intuition, la petite voix intérieure, les prémonitions, les synchronicités, les signes.
C'est ça.
Tout à fait étonnant. Et ça, moi, j'en ai sans arrêt des synchronicités. C'est vraiment, quand on commence à faire attention, on en a plein. Et puis, ce rapport avec ceux qui sont dans l'invisible, qui sont soit des figures spirituelles, un saint, soit des, tout simplement des personnes décédées, mais qui ont été proches dans la vie et qu'on sent toujours proches et protectrices, des alliés.
Oui, c'est ça.
Qui, voilà.
Mais alors, est-ce que cet invisible ou ces invisibles ne donnent-ils pas sens à notre vieillesse? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on arrive à les découvrir, à les percevoir, qu'on apprend à bien vieillir?
Oui, sûrement. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on ne se réduit pas. D'abord, on ne se réduit pas à ce corps, hein, qui est ce corps physique, hein, qui est le futur cadavre. Hein, on ne se réduit pas à ça. On prend conscience, effectivement, de tout ce qui anime ce corps. Hein. La corporalité animée, elle est invisible, en fait.
Oui.
C'est le mouvement qui anime le corps. D'ailleurs, dans ce livre, j'ai une superbe interview d'un danseur qui dit bien que l'invisible, c'est l'énergie qu'il y a entre nos deux plexus. Mmh. C'est le mouvement aussi, ce qui met en mouvement le corps. Évidemment, on peut le voir, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose de... Oui, qui appartient à l'invisible. Alors, certains vont parler d'énergie, d'autres de mouvement, d'autres... tout ce qui nous anime, bien sûr. Le corps que matière, ce qu'on voit, hein, le visible, et il est appelé à disparaître.
Mmh.
ça c'est sûr. Et alors, c'est intéressant parce qu'à la fin du livre, j'ai consacré mon épilogue aux non-voyants.
Oui, j'allais, oui,
Est-ce que vous
exactement.
alliez me poser
Ben,
une
en
question?
fait, je trouve que c'est très beau parce que c'est finalement, on change la conception de la vue. Vous savez, un jour, je discutais avec un thanatopracteur
Oui.
d'une agence de pompes funèbres et qui me disait, quand je ferme les yeux d'un défunt, je ferme les yeux sur le monde pour l'ouvrir sur son intériorité.
Très beau.
Et je trouvais ça, et en fait, ça m'a fait penser à la fin,
Oui.
lorsque vous parlez des non-voyants, finalement, ben, ceux qui sont non-voyants voient encore peut-être beaucoup plus.
Voilà, et moi je crois qu'il faut les écouter, les non-voyants.
Voilà, oui.
Il y en a beaucoup, hein. Il y en a des célèbres dont je parle, comme Jacques Lucérant,
C'est ça.
comme aussi Hugues de Montalembert, que j'ai rencontré. D'ailleurs, je lui ai donné mon livre, je termine d'ailleurs le livre avec lui. Ils vous disent tous que, évidemment, ils ne voient plus avec leurs yeux physiques, ils voient avec les yeux du cœur.
Tout à fait.
Donc là, on a, c'est vrai que c'est la phrase aussi du Petit Prince, hein, mais eux, ils le vivent. Et ce qui m'a frappée chez ceux que je rencontre, c'est leur joie de vivre.
Oui.
C'est vraiment étonnant. Comme si, et là, on se dit, mon Dieu, mais est-ce que nos yeux, finalement, sont qui peut-être. Ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de voir la beauté du monde, hein? Peut-être que et qui passent leur temps à regarder des émissions de télévision, peut-être qu'il faudrait se promener un peu plus dans la nature, regarder le ciel, les
C'est
arbres,
ça.
et regarder la beauté, puisque ceux qui ne voient pas, hein, ils perçoivent,
Tout à
hein,
fait, c'est
ils
ça.
perçoivent avec je dirais leur sens du contact, hein, ils perçoivent avec les autres sens, bien sûr, mais avec le cœur. Hein. C'est très mystérieux, mais je pense vraiment que nous devrions les écouter, les non-voyants.
C'est vraiment un invisible,
Oui.
vraiment un invisible. Marie de Henzel, malheureusement, l'interview s'achève, trop rapide, à mon sens, malheureusement, mais peut-être une dernière question à tous les étudiants qui vous écoutent aujourd'hui. Quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir?
Je dirais qu'ils écoutent à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est ça. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils savent pourquoi ils sont là, sur Terre. Ils le savent. Vous le savez, puisque je
C'est
parle aux
ça.
étudiants. Vous savez ce qui est. Au fond de vous-même, vous savez pourquoi vous êtes là et ce qui compte. Et je pense qu'il faut faire confiance à sa petite voix intérieure et à son intuition. Parce que peut-être qu'on découvre petit à petit que l'on est guidé aussi, mais il faut être soi et le demeurer, hein, jusqu'à l'heure de sa mort. Hein. Et je pense que si on est soi, si on se fait confiance, la vie aide. La vie, les invisibles aident.
Les amis, écoutez ce que vient de nous dire notre amie Marie de Henzel. Écoutons cette petite voix intérieure qui est en nous et qui nous permet d'avancer. Marie de Henzel, merci infiniment de m'avoir reçue. Merci pour la profondeur de vos mots et de votre réflexion. Et permettez-moi de terminer par une belle citation d'André Comte-Sponville qui, à mon sens, vous caractérise le plus. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas parce que le sage est plus heureux que nous qu'il aime la vie davantage, c'est parce qu'il l'aime davantage qu'il est le plus heureux. Marie Denzel, vous aimez la vie, vous aimez l'humain, vous aimez l'autre, et c'est pour ça que sur vous, on lit une joie intérieure qui rayonne. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour vos travaux, merci de nous aider à continuer à bien vieillir, mais surtout à bien vivre.
Oui, et merci pour cette belle interview.
Merci infiniment.